Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec...
Je m'appelle Karine Zinck, j'ai 53 ans, je suis travailleuse père dans le social au comité des bases qui est la délégation des bénévoles et acteurs sociaux engagés Drôme-Ardèche.
Alors, il était convenu que de comité des bases Drôme-Ardèche, il en serait question dans l'émission du jour. Et puis, en fin de compte, on vous propose plutôt de faire connaissance avec Karine. Son parcours de vie, son regard sur les choses. Et c'est vraiment l'émission qu'il fallait faire. Mais pour vous présenter en deux mots le comité des bases Drôme-Ardèche, eh bien c'est simple, je suis allé faire un tour sur leur page Facebook et voilà ce qu'on peut lire. Faire remonter la parole des personnes en précarité auprès des pouvoirs publics et développer le travail PAIR, P-A-I-R. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais pas avec n'importe qui. On vous souhaite une belle rencontre, une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir.
Alors, travailleuse PAIR, ça vient de la PAIR aidance, qui veut dire semblable. C'est-à-dire que un jour, j'ai trouvé une offre d'emploi qu'une travailleuse sociale qui me suivait depuis des années m'a fait passer par mail. Sur cette offre d'emploi, il était écrit qui cherchait quelqu'un qui avait été accompagné pendant des années, qui avait connu les addictions. Et voilà, c'était le diplôme qu'il fallait, en fait. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai un bac plus 52, option précarité addiction. Parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui que entre le travail social, donc qui veut aider les gens dans la précarité, et la précarité, il y a un fossé qui s'est creusé. Et ce qu'il leur manque, c'est justement la parole des personnes qui ont ce vécu, pour prendre les bonnes décisions. Moi, quand j'allais voir les travailleurs sociaux quand j'avais besoin d'aide, je ressortais pas très souvent avec des solutions, en fait. Aujourd'hui, En discutant avec ces travailleurs sociaux, on se rend compte qu'en fait, c'est un problème de communication. On n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes buts. Des fois, c'est parce que au lieu de demander à une personne où est-ce qu'elle en est, elle, dans son parcours et où elle a envie d'aller, ben, ils vont peut-être demander « Alors là, il faut que votre budget il soit un peu plus comme ça, il faut faire tel papier, il faut faire... » Voilà. Ça manque de lien avec la réalité. Ça manque d'humain, par exemple. Une personne qui va ne pas venir à son rendez-vous de RSA, des fois, ça arrive que le travailleur social va se dire bah, « elle s'en fout ». Mais peut-être que cette personne elle est en train de faire une phobie sociale, qu'elle n'arrive plus à venir. Peut-être qu'elle a un animal dont elle ne peut pas se séparer, les animaux sont interdits dans les locaux. Enfin, il y a plein de raisons avant de s'en foutre, quoi. Ou même peut-être qu'elle a oublié. Et d'ailleurs, au comité, on fait des actions de parrainage, justement, pour les personnes, parce que quand on est dans la rue, on n'a pas un agenda. Il suffit qu'on ait des addictions pour que, ben, on ne sait plus, hein. C'est lundi, c'est mardi, c'est dans 15 jours. Ce qui est important, c'est pas tellement de faire ses impôts. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, et pour qui j'existe aussi. Je pense que la précarité, que ce soit sociale et financière, a commencé quand j'avais 7 ans. Mon père n'était pas là, ma mère travaillait, je m'occupais de mon petit frère qui avait 5 ans, donc déjà j'ai eu voilà, un petit peu des engagements, quoi. Et à la suite, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à rentrer dans les addictions, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de souffrance, et un jour, j'allais sur la place de mon quartier, et je vois deux jeunes, beaucoup plus grands que moi, qui devaient avoir 18 ans, moi j'en avais 13, et ils buvaient de la bière, et ils m'ont offert une bière. Moi je savais pas du tout ce que c'était l'alcool, hein. Et j'ai bu cette bière, et cette bière, elle m'a fait tellement de bien. Je l'ai bu, elle m'a apaisé, elle m'a aimé, j'allais dire. Voilà, elle était en train de me donner tout ce que je... Tout ce qui était en trash dans ma vie, elle était en train de m'apaiser tout ça. Et là, j'ai commencé... à boire, régulièrement, puisque ça faisait du bien. Au moins, il y avait quelque chose dans la vie qui faisait du bien, c'était ça. Donc, j'ai été malade alcoolique assez rapidement, j'ai connu la rue, parce que je voulais que mon père s'occupe de moi, mais il n'était pas là, donc moi, je restais dans la rue. À l'époque, on avait la chance ou le malheur, je ne sais pas, de ne pas avoir de portable. Nous, à la maison, on n'avait pas de téléphone. Ma mère, elle n'avait pas le temps d'aller courir dans toute la ville me chercher parce qu'il y avait mon petit frère à s'occuper. Donc moi, je suis resté dans la rue, enfin à dormir un peu n'importe où, à fréquenter un peu tout le monde et à essayer de me trouver une famille ou un sens, quoi. J'avais 13 ans, donc j'étais quand même gamine. Et jusqu'à 17, 18 ans. Et j'ai toujours continué à boire. Je savais pas du tout ce que c'était la maladie alcoolique. Et voilà, après, vers 18 ans, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat dans des associations. J'ai cherché un travail. Je payais 1000 francs un appartement et je gagnais 1000 francs, donc l'affaire était vite classée, quoi. Reste du temps, c'était un sac de patates de 10 kilos qui devait faire le mois et puis du café qu'on repasse et qui devient de l'eau chaude. Et puis les addictions sont toujours restées, en fait. J'ai fait un peu de prison, j'ai fait 2 mois de prison puisqu'on essaye de gagner de l'argent par des moyens... par des moyens comme on peut, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas évident quand on est sous addiction et qu'on n'a pas de repères, surtout, de se trouver dans cette société, quoi. Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, autant d'éducateurs de rue, de gens qui s'occupent de nous, de gens bienveillants. Moi, j'ai dormi à Valence devant ce qui était la NPE. J'avais 15 ans ou 16 ans. Je dormais, j'étais complètement défoncé. Je pense qu'aujourd'hui, on laisserait jamais un jeune... j'espère du moins qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de conscience de ça. Et je dormais devant les... Pourquoi devant la NPE, j'en sais rien. Parce que moi, oui, j'avais 16 ans. Et puis à l'époque, on commençait à pointer à la NPE. Je ne sais plus comment ça se passait, mais voilà. Et peu d'adultes se sont occupés de moi. Donc moi, très vite, j'avais pas envie d'être adulte. Parce que finalement... Un adulte, ça me servait pas à grand-chose. Et puis, alors, vraiment, tout le monde s'en foutait. Hein. C'est vraiment... Quand j'y repense, c'est fou, tous les gens qui ont dû passer à côté de moi, gamine comme j'étais, quoi, et qui ont rien fait. Et puis, j'ai fait du stop, j'ai traversé toute la France, parce que je suis allé chercher un peu partout où est-ce que... Elle était où, cette famille, là, qui... Où c'est racines, c'est où chez moi, en fait. J'ai compris bien plus tard que c'était à l'intérieur... de moi, finalement, que j'avais trouvé ma place. Mais il a fallu des années. Et à 17 ans, comme j'étais quand même déjà bien alcoolisé, je suis allé voir un médecin parce que j'étais toujours en train de pleurer, j'étais pas bien. Et donc là, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, je sais pas pour qui, mais il m'a fait une ordonnance avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, voilà. Donc un peu plus de défense, hein, avec, en plus de mon alcool.
Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route en compagnie de Karine Zinc. Retour à l'entretien.
Comme quoi on peut être bien défoncé et quand même faire pas mal de choses. Parce que moi je suis quand même animatrice socioculturelle, j'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai passé un BEATEP, un brevet d'état. J'ai fait une formation de peintre en bâtiment, des années après. Hein. J'ai passé mon permis de bus. Je trouve quand même qu'on donne le permis des fois à n'importe qui. Parce que moi, j'ai passé le permis de bus quand je suis allé le matin pour aller passer l'examen, après avoir fait la formation et tout. Hein. Je me disais, bon, je vais peut-être pas y aller défoncé. Mais je pouvais pas, parce que je commençais à trembler, ça n'allait pas. Donc bon, écoute, je bois un coup, je fume un joint, et je vais passer mon permis. Et je l'ai eu, hein. J'ai eu même 17 de moyenne en mécanique. J'ai fait pas mal de diplômes. Et quand on fait des choix comme ça, sous défonce, j'ai envie de dire, j'ai pas... continuer dans les métiers. À part animatrice socioculturelle, c'était génial. J'ai fait ça pendant 7 ans. Mais sinon, peintre en bâtiment, je voulais le faire en vue d'être formatrice pour former des gens dans l'insertion, toujours pour aller aider ceux qui en ont besoin. Et puis finalement, peut-être que l'année d'après, après l'alcool, les joints, le machin, j'ai changé d'avis et puis j'ai fait autre chose. J'ai eu ma fille quand j'avais 33 ans. Ça aussi, quand on nous dit, oui, pour avoir un enfant, il faut être dans une situation stable, il faut ci, il faut ça. Non, j'aurais jamais eu d'enfant sinon. Hein. J'ai eu ma fille, ce qui m'a fait que il a fallu que j'arrête de boire, j'étais enceinte, mais quand même, les docteurs m'ont quand même dit, au lieu d'arrêter tout et de faire un sevrage et que finalement le stress risque plus de faire du mal à l'enfant, tu peux quand même garder, fumer un peu d'herbe. Alors j'étais en Ardèche à l'époque, hein, c'était assez facile. Je fume un peu d'herbe de temps en temps et voilà. Et aujourd'hui, ma fille va très bien, elle a 23 ans, elle est en pleine forme. Voilà, ça aussi c'était un passage de construire une famille, donc ça s'est pas fait aussi facilement. Parce que le papa après n'est pas resté très longtemps, on va dire, investi. Et donc je me retrouvais encore seul avec ma gamine. Le schéma qui se reproduit, ma mère qui avait élevé ses enfants seuls, ma grand-mère qui avait élevé ses enfants seuls. Mais bon, on s'en sort quand même. Et à 33 ans, la première fois que j'ai emmené ma gamine à l'école maternelle, j'ai regardé les mamans. Et je me suis dit, toi, t'es pas une maman comme les autres quand même. T'arrives là, déjà, je sentais l'alcool, j'étais mal à l'aise. Je voyais bien que j'avais rien à voir avec ces mamans-là. Et c'est ça qui m'a fait faire le déclic, d'aller me dire, mais qu'est-ce que j'ai qui va pas, en fait? Parce que moi, la maladie alcool, elle est pas connue. On sait pas que c'est une maladie. Des fois, on le sait pas. Et donc, je suis allé dans un centre médico-psychologique. Et on m'a déclaré phobie sociale, agoraphobie, donc traitement encore qui continuait tout le temps, les Xanax, les antidépresseurs. Aujourd'hui, je suis tout à fait sûr que je ne fais pas ni de phobie sociale ni d'agoraphobie, mais je pense plutôt que c'était l'alcoolisme et tout ça qui avait engendré des choses, la vie à l'extérieur, quoi. On est ouvert les entrailles comme ça à l'air et puis on doit tout affronter, c'est trop dur, quoi. Et en allant à ces rendez-vous du CMP, j'ai trouvé un petit papier, un petit flyer de la Croix-Bleue, une association qui parlait de malades alcooliques. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un malade alcoolique? Et je suis donc allé voir à l'association, mais qu'est-ce que c'est un malade alcoolique? Est-ce que moi je le suis? Et à mesure qu'il me disait, si c'est comme ça, c'est que t'es malade alcoolique, si tu fonctionnes... J'avais bon à toutes les cases. J'ai dit bon... Ok, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et maintenant, on m'a dit, c'est abstinence totale et définitive. Et là, j'ai pleuré beaucoup. Ma première réaction, ça a été, du coup, je vais même plus pouvoir boire du vin rouge avec du roquefort. Tu vois, comme quoi, c'était vraiment... non. Et voilà, là, a commencé un travail avec cette association... et avec des professionnels de santé, sauf que je voulais toujours rester dans l'anonymat parce que ma seule crainte, c'était qu'on m'enlève ma gosse, en fait. Donc, je me suis sevré chez moi avec l'aide de l'association. Et au bout de 2 ans, j'ai été membre active et présidente de l'association. Et du coup, j'ai pu m'occuper de plein de personnes. J'ai pu fréquenter des réseaux addictologie avec des professionnels de santé en amenant mon témoignage. Enfin, c'était vraiment la valorisation qui commençait de mon parcours, en fait. Finalement, toutes ces galères que j'avais vécues étaient en train de servir à des professionnels de santé, étaient en train de servir à des personnes malades alcooliques. Quand je dis j'ai au sein de la Croix-Bleue de Montélimar, c'est pas moi toute seule, bien sûr, c'est l'association. On était 4 ou 5 au départ à refaire tourner cette section Croix-Bleue et à avoir des hommes, des femmes, des gens de l'entourage qui venaient. Et ça m'a amené à animer des réunions, à avoir des gens en entretien, à faire des choses bénévolement que professionnellement, j'avais pas le diplôme. J'avais pas le diplôme pour être animatrice de réunion, j'avais pas le diplôme pour avoir des accompagnements. Mais bénévolement, du coup, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et ça a été très bien, là, ces années, pendant 7 ans.
êtes toujours à l'écoute de Sur la route en compagnie de Karine Zinck. On va parler maintenant d'aller vers la vie. Retour à l'entretien.
J'emmenais ma gamine qui avait 3 ans, 3-4 ans aux réunions Croix-Bleue. Et elle faisait des dessins. Et puis je pleurais en sachant qu'il allait falloir que j'arrête de boire. Mais enfin, quand je dis je pleurais, c'était un échange d'expérience. C'était un échange de beaucoup de choses. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a quand même un bel apport de 7 ans de Croix-Bleue où je l'ai promenée dans toutes les réunions parce que ça devenait ma vie, mon quotidien, où elle a vu des gens s'en sortir, où elle voyait aussi, ça me touche quand même, parce que elle voyait aussi sa maman qui faisait des choses autres que d'être complètement défoncée, tu vois, qui faisait des choses, qui apportait du bien-être aux gens, qui allait, il y avait une volonté de se soigner, quoi, d'aller vers la vie, en fait. Et toujours, après, c'était, il y avait plus d'alcool, il y avait encore le cannabis et les médicaments. Là, aujourd'hui, j'ai 53 ans, et ça fait à peine 5 ans que j'ai arrêté les anxiolytiques et les antidépresseurs. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui vont, par le biais des médecins, vers des traitements, c'est bien, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même que ça peut aider, ça peut être une béquille, mais il y a plein d'autres moyens, sans aller vers les médicaments, de s'en sortir. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de médecines alternatives, donc ça peut être un complément. Mais c'est pas la solution, moi, avec à prendre du Xanax et de tout ça. Je faisais des crises de tétanie, quoi, à trembler de partout. Depuis que j'ai arrêté tous ces médicaments, je fais plus de crises de tétanie. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, je suis plus ni agoraphobe, ni phobie sociale, ni alors que les médecins avaient diagnostiqué pour avoir un traitement à vie. J'allais travailler à l'usine, j'allais travailler dans les champs, donc j'étais au RSA depuis des années. On dirait que quand on est précaire, franchement, des fois, on dirait qu'on a une épée Damoclès et que ça va jamais s'arrêter. Donc je m'étais, c'était toujours d'aller chercher des colis alimentaires avec ma fille, c'était toujours la galère sur plein de choses. J'y arrivais plus, moi. Physiquement, j'y arrivais plus. Les champs, machin, j'ai fait Amazon, j'ai trois mois, j'ai perdu 10 kilos. Non, c'est des boulots qui étaient beaucoup trop durs. Quand on vit dans la précarité, dans la rue, dans la violence, la prison, les agressions, les machins, c'est fatigant. Faut pas croire que, oui, ils sont au RSA, ou alors ils ont, parce que moi, avant, il y avait eu le, enfin, je sais plus quelle mesure, quoi, plein de la santé plus. Moi, j'ai toujours été dans des catégories de pauvres, quoi, pour avoir le minimum. Mais tout ça, c'est épuisant. On n'a pas d'avenir. On a juste aujourd'hui, comment je vais manger, où est-ce que je vais dormir, comment je vais nourrir ma fille. Chaque courrier, ça devient un stress encore plus. J'ai toujours été quand même bien, surtout que j'ai vécu en Ardèche, j'ai toujours été très spirituel, quoi. On va dire, proche de la nature, les chamans, tout ça m'intéressait beaucoup. Et puis moi, j'y croyais fort, sinon je serais morte de toute façon, parce que sans cette foi en l'univers et en la vie, j'aurais pas pu tenir le coup. Du coup, je me suis dit, moi c'est bon, j'arrête de travailler pour je ne sais pas quelle boîte, à éplucher des kilos d'ail pendant des 8 heures par jour, tout ça pour gagner un SMIG. De toute façon, je n'y arrivais plus, mentalement et physiquement, c'était plus possible. Donc j'ai dit, j'arrête. J'ai demandé à l'univers, je dis, voilà. L'univers, voilà. Moi, j'arrête ces boulots-là. Quitte à aller manger des racines en Ardèche sous un tipi, je m'en fous. C'est pas grave. Et si tu peux m'envoyer un boulot qui me correspond un peu plus, où vraiment, là, je pourrais développer tout mon sens du social et de... Moi, j'aime les gens. Enfin, j'en étais arrivé à ne plus aimer personne parce que, voilà. Mais j'aime les gens. C'est vraiment... L'être humain est fantastique. Et voilà. J'ai demandé ça à l'univers et puis je suis allé me baigner dans les rivières pour me détendre et j'ai arrêté de travailler. Parce que de toute façon, au RSA, dès qu'on travaille, après on n'a plus le RSA, donc pendant 3 mois, on n'a plus de revenus, donc on a de nouveau des dettes. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Comme on dit maintenant, ce serait une dinguerie. We'll be right back.
Allez, on va retrouver pour une toute dernière fois dans cette émission Karine Zinc, qui va là nous parler de bienveillance. Et si vous voulez mon avis, plus on en parlera et plus on agira avec bienveillance, et meilleur le monde se portera.
Combien de temps, je vais dire, peut-être 2-3 mois après, j'ai reçu cette offre d'emploi comme quoi ils cherchaient un travailleur pair, une travailleuse pair. Voilà, avec une expérience du vécu.
Cochez toutes les cases.
C'est bon. Ah oui, carrément, et puis tellement de choses à partager. Et là, ça a commencé. Bon, ben, c'était un peu flippant quand même, parce qu'il fallait d'un coup parler avec des gens, il fallait d'un coup sortir et aller de partout. Bon, ben, j'ai trouvé quand même une équipe bienveillante. Et là, ça a commencé à parler de moi, à devoir un peu expliquer mon parcours, à devoir dire comment ça se passe dans la rue. Au début, je comprenais pas que ces personnes aient besoin de mon témoignage, comment ma vie de galère 24 heures sur 24, ça allait les intéresser. Pourquoi ? Aujourd'hui, je comprends bien. Parce qu'en fait, on n'a pas la même vision du monde. On vit dans des mondes parallèles. Il y a... les gens, alors là, en l'occurrence, c'est les travailleurs sociaux, mais sinon, les gens, le citoyen lambda, qui n'a pas... Je dis pas qu'ils n'ont pas de problème, hein, mais ils en ont d'autres. Mais voilà, la vie des gens en général, qui travaillent, qui ont des voitures, qui ont un confort de vie, c'est pas du tout le même monde. On n'a pas la même façon de parler, on n'a pas la même... Voilà, j'allais dire, nous, on est les plus grands écolos, les pauvres, parce que, alors, vraiment, on a appris à tellement gérer bien un peu de quantité d'eau, ou alors... Mais ça, c'est encore un autre sujet. Comment... oui, alors j'ai commencé, voilà, par faire des permanences avec une éducatrice qui est au comité des bases, Paola. Et là, je me suis rendu compte que nos deux regards, c'était super intéressant, en fait. Parce que elle avait une vision du monde, moi, j'en avais une autre... Quand on avait une personne en face de nous qui nous parlait, ben elle entendait quelque chose. Moi, j'entendais peut-être autre chose. Après, on en débattait. Et c'est vraiment... c'est ça qui est riche de sens, quoi. On n'est pas que des punks à chiens, quoi, tu vois. C'est pas parce qu'on crie fort, des fois, ou qu'on va avoir un langage... que on n'est pas des gens plein d'amour, comme tu dis, tu vois, plein de bienveillance... Et en fait, de très belles personnes. C'est juste qu'on s'exprime sans chichi. On a envie de dire « fais chier merde », et bien « fais chier merde », il n'y a pas 3 milliards de façons de le dire. Mais c'est pas des insultes. C'est pas parce qu'on crie fort, c'est pas parce qu'on est impulsif des fois, qu'on est méchant. Parce que les gens ont peur, des fois, de justement cette précarité, des petits regroupements de gens. Alors c'est vrai qu'ils sont excessifs, il suffit qu'on ait bu un peu trop des canons pour que ça parle dans tous les sens. Mais au fond, si on s'assoit 5 minutes avec, autant il va te chialer dans les bras, le gars, tu vois, parce que ce qu'on a besoin, c'est du regard de l'autre. Et puis que ça fait peur, mais c'est rigolo, parce que c'est juste que je pense que les gens, en général, s'ils se lâchaient un peu plus... S'ils arrêtaient de se mettre derrière des mots et des prout-prout, des machins, ils se sentiraient tellement mieux.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paola, à Florian et bien sûr à Karine pour ses mots et son courage. Pour en savoir plus sur le comité des bases Drôme, rendez-vous sur leur page facebook.com/comité.desbases.3. Si vous voulez réécouter cette émission, plusieurs choix s'offrent à vous. En cherchant Sur la route sur YouTube ou sur le site Podcastix, qui vous permettra d'écouter cette émission et toutes les émissions précédentes via Deezer, Spotify, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook de l'association Résonance. Trouvez-nous à Association Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.